Et bonsoir, bienvenue à tous dans Paris Central. On se retrouve avec Soura et Milan ce soir suite à cette victoire 2-0 en Classico. Encore une victoire lors d'un Classico et une stat qui fait mal. Merci le chat de l'avoir ressorti. 7 ans consécutifs pour l'Olympique de Marseille sans le moindre but au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain lors des Classicos. Bonsoir à tous et comment ça va pour commencer?
Ça va, hein. On a gagné un match très important pour le Paris Saint-Germain, un classique. Donc la soirée est parfaite.
Totalement d'accord avec Sora, franchement, ça fait plaisir de revenir pour des débriefs et d'être aussi content, on va dire.
Alors justement, ben bonsoir aussi à toutes les personnes qui sont dans le chat, qui regardent l'émission, aussi bien sur YouTube en live que pour ceux qui nous écouteront en podcast et ceux qui nous regardent aussi sur Twitter d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. J'espère que tout le monde va bien et de bonne humeur hein, suite à ce classico. Bon, à part peut-être les quelques Marseillais qui risquent de venir dans le chat, mais étant donné la physionomie du match, je ne pense pas qu'on va trop les voir ce soir. Donc déjà, justement, pour commencer ce live. La première partie, en tout cas, de ce match PSG-OM dans le débrief, je voulais qu'on aborde justement ce PSG qui, quand même, a été mis en difficulté par l'OM en raison de très nombreux facteurs, notamment le carton rouge de Beraldo, mais aussi une bonne première mi-temps de la part des Marseillais, justement. Bah, Soura, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Je pense qu'il y a eu des facteurs qui ont été quand même assez différents pour Marseille et qui sont allés dans leur faveur. Déjà, le fait que, comme ça avait été rappelé sur Prime, Marseille n'a pas joué en défense à 3, mais en 4-2-3-1, avec un double pivot qui était, on va dire, en marquage individuel sur le milieu de terrain. Et ça a quand même fait des différences notables face à nous. Mais néanmoins, je pense que sur cette première mi-temps, et notamment sur les 30 premières minutes, c'était un petit peu un round d'observation. Il n'y avait pas forcément d'équipe qui était ouverte. Il n'y avait pas trop d'espace sur les premières minutes, les 15 premières minutes. Après, ça s'est un petit peu débridé. Et malheureusement, on a un incompétent qui est arbitre, qui a bousillé le match à lui tout seul. On sait à quel point un arbitre peut être extrêmement important, mais je ne savais pas que ça pouvait faire autant changer le cours d'un match. Résultat, on gagne. Et ça, c'est le plus important. On remporte le match ce soir. Mais ce carton rouge peut vraiment nous mettre dans une situation très délicate. Heureusement, c'est juste avant la fin de la première mi-temps. De la fin de la première mi-temps, parce que si ça aurait été à la 20e ou à la 30e, le match aurait été complètement différent. Mais pour le coup, sur cette première mi-temps-là, c'était plus un round d'observation et après, ça s'est débridé.
Milan, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi, j'ai trouvé franchement que faut dire merci à Gasset. Il fait du très bon travail à Marseille. Je trouve franchement, c'est sur cette première mi-temps, on sent que les Marseillais ont réussi à nous mettre beaucoup en difficulté et ça a énervé Luis Enrique. On l'a vu plusieurs fois. Après, forcément, on est au Vélodrome, on le savait. On arrive là-bas en sachant très bien que ça va être compliqué, qu'on va pas arriver les mains dans les poches. Maintenant, voilà, il y a eu le carton rouge qui change le cours du match, mais on sent qu'en deuxième mi-temps, voilà, si on parle de la deuxième mi-temps, après ce carton rouge, il y a eu une belle réaction des Parisiens. Et on sent aussi que Luis Enrique a parlé à ses joueurs, et c'est ça qui change un grand coach, c'est que bah, forcément, les paroles d'un entraîneur, ça a fait du bien. Donc sur ce match-là, franchement, non, on a vu une première mi-temps très compliquée des Parisiens, franchement. Du mal à regarder le match, ça m'a fait un peu penser au match qu'on a pu voir en première ligue contre Arsenal-Manchester City. C'est un match plutôt fermé, même pour les Parisiens, on s'est fait dominer à des moments clés. Merci Donnarumma. Mais non, franchement, non, on a une belle réaction et c'est ce qui compte.
Alors, réaction, on y reviendra un petit peu plus tard, justement. En tout cas, pour revenir sur les difficultés des Parisiens, il faut dire ce qui est, les Marseillais ont, en tout cas, tenté de jouer au maximum. Et il faut dire ce qui est, ça aurait pu payer, étant donné que Donnarumma a fait le match qu'il fallait, ça les a plutôt empêchés. Mais ils se sont quand même créé des occasions, bien que peu de dangereuses, quand même, on ne va pas se mentir. Mais oui, ils ont pu nous mettre en difficulté, notamment au milieu de terrain. Et finalement, ce carton rouge, je ne dirais pas que c'est une bonne chose qui nous est arrivée, mais ça nous a permis en tout cas de changer beaucoup de choses. Luis Enrique, je ne sais pas ce qu'il leur a dit justement à la mi-temps, mais il les a clairement remis à leur place et je pense qu'il a changé beaucoup de choses, aussi bien tactiquement que mentalement. On l'a vu justement à notamment le fait qu'il ait sorti certains joueurs, notamment Mbappé, Dembélé et Kolo Muani, ce qui pouvait d'ailleurs sembler assez étonnant étant donné que tu allais clairement jouer le contre à 10 contre 11 de sortir tes trois joueurs les plus rapides. Qu'est-ce que vous avez pensé des nombreux changements de Luis Enrique? Est-ce que pour vous ils ont été payants ce soir, Soura?
Ouais, bah bien sûr qu'ils ont été payants. Déjà, Gonçalo Ramos qui rentre à la place de Mbappé et qui marque, c'est un coaching payant. Lee Kang-in dans le contrôle du ballon en seconde mi-temps alors qu'on était réduit à 10. Là aussi, il a été très important dans ce match-là et c'est à mettre au crédit de Luis Enrique sur ce match-là. Les sorties et le remplacement de Warren Zaïre-Emery en latéral gauche. Pour le coup, même si on peut reprocher à Luis Enrique de mettre Warren Zaïre-Emery en tant que latéral, bah au moins il avait certains automatismes entre guillemets pour pouvoir permettre de pallier à la perte de Beraldo qui avait été suspendu. Donc ça aussi, c'est quand même un bon coaching de la part de Luis Enrique. Au milieu de terrain, tu as ce double pivot Vitinha, Fabián Ruiz qui voilà, est pas forcément le meilleur des doubles pivots, notamment un joueur en particulier, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a quand même une bonne réaction par rapport à Luis Enrique, contrairement aux autres coachs, dont le prof de sport qui n'avait aucune réaction lorsqu'on était en difficulté face à d'autres équipes. Donc pour moi, je pense que Luis Enrique est en train de prendre le bon chemin avec cette équipe.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Milan?
Non, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a eu voilà, des bons changements, je pense, ouais, du coup, à Ramos. Après, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir un peu plus Colomani. Je trouvais que sur cette première mi-temps, il avait quand même montré quelques belles choses offensivement, notamment avec son duo avec Ousmane Dembélé. Non, franchement, au final, Kylian Mbappé ne faisait pas le match qu'il fallait. J'ai vu une statistique passer sur Twitter où tu voyais que 17% des attaques, elles passaient sur le côté gauche. C'est très faible, alors que bon, bah, c'est quand même notre plus grand attaquant, celui qui peut faire dynamiter un peu cette rencontre. Mais après, mis à part ça, franchement, non. Gonzalo Ramos, très belle rentrée. Kanginli a été plutôt bon, justement, aussi sur ce contrôle de balle. Il a fait quand même des différences. Après, franchement, non. Après, c'est dommage que Beraldo, il sort. Je trouvais qu'justement, il était sur un bon match. Cette intervention face au Aubameyang, je l'ai même trouvé impressionnant. Au final, bon, carton rouge sur cette action, c'est dommage, mais je l'avais trouvé plutôt solide. Sachant que bon, Skriniar fait pas la meilleure entrée, première entrée du monde. Enfin, même je le trouve qui dès son entrée du match, il est plutôt même catastrophique. On le sait, Danilo, il est plutôt en difficulté. Bon, il arrive quand même à sauver des meubles sur cette deuxième mi-temps, mais Skriniar, franchement, non, ça a été compliqué pour lui. Donc, je dirais c'est du 50-50, mais Luis Enrique avait pas forcément le choix avec ses circonstances.
Je vois pas où. Parce que tu vas te couper, Toto, mais je le vois dans les commentaires et j'entends Milan. Je vois pas où l'entrée de Skriniar a été catastrophique. Moi-même, je trouve que c'est pas forcément nul, mais il a un peu tenu la baraque. Il revient de blessure en plus, d'une longue blessure au dos, je crois, si je me trompe pas. Donc pour moi, c'est une entrée en matière pour dans un match très important en plus de ça. Après, moi, je garde toujours le fait que Skriniar en un contre un, c'est un joueur qui est très difficile à manœuvrer et qui est très difficile à passer. Mais pour moi, son entrée, elle n'est pas forcément catastrophique comme ce qu'on le fait dire.
Alors moi, je pense que je vais être un peu entre vous deux concernant Skriniar. Je pense que si tu prends Skriniar sans le ballon, c'est-à-dire bah, défensivement parlant, son taf, il le fait. Il est bon duel, il empêche les attaquants de marquer. Il a fait son taf défensif. En revanche, avec le ballon, je pense que tu t'es fait quelques frayeurs sur Skriniar dès qu'il avait le ballon, et ça reste son défaut. Et on sait que sous Luis Enrique, bah, ça risque de lui coûter cher. Je pense cependant que, comme ça a été dit aussi bien dans le chat par Kevin, à un moment, il faut être un peu juste, match de reprise, il revient d'une blessure. Non, je m'attendais personnellement à ce qu'il ne rejoue pas de la saison. Donc oui, son entrée n'est pas fameuse, catastrophique cependant, je pense qu'il faut doser, tu vois. Je peux entendre, tu vois, genre le fait que bah, Skriniar n'ait pas fait la prestation du siècle en rentrant, bien entendu. En revanche, je pense qu'on a le droit de prendre en compte aussi le fait qu'il n'a pas joué depuis plusieurs mois et qu'il n'a pas fait, entre guillemets, des bouts de match avant pour se remettre en jambe. C'est justement celui-là, le match où il se remet en jambe.
Non, bien sûr. Mais après, si moi, je peux rajouter quelque chose, si tu regardes tout de suite après son rentrée, on se prend une attaque où justement, sur la profondeur, il gère mal. Tu vois que Danilo avance alors que lui recule. Donc Danilo qui veut justement peut-être jouer le hors-jeu alors que Skriniar joue justement à essayer de contrer cette balle lobée. Donc c'est dommage parce que bah au final il s'est pas bon. Après on le sait, la cohésion d'équipe forcément quand ça fait longtemps que t'as pas joué, c'est faut bien reprendre. Je n'en veux pas sur ce premier match, mais en tout cas va falloir si Luis Enrique veut faire plus jouer. On le sait que du coup Beraldo il sera sûrement pas là, mis à part si son carton rouge est enlevé, mais ça m'étonnerait lors de ce match contre Rennes qui va être plutôt important. Donc Mien Skriniar il va devoir prendre son courage à deux mains et retourner sur le terrain très vite. Mais voilà, sur ses premières interventions, j'ai trouvé plutôt fébrile. Mais après, sur 45 minutes, on a déjà vu pire sur un match de Skriniar. Donc, on va dire que ça va.
Bah, il reprend justement, comme c'était dit, bah, dans un classico à 10 contre 11, à ligne de rien, à l'extérieur. Je connais d'autres défenseurs dont je ne citerai pas le nom qui auraient pu craquer dans ces circonstances, oui, mais j'ai sympa, sûr. Je ne vais rien dire. Alors non, par contre, Dryas, tu poses une bonne question, et justement pour ceux qui posaient les questions dans le chat, Dryas est bientôt de retour, vous le reverrez mercredi. On n'a pas encore abordé le thème, mais justement ça tombe bien, on comptait en parler de toute manière. Donc justement, maintenant qu'on a un petit peu parlé de tout ça, bah, tant qu'à faire, on peut aborder le cas de Ousmane Dembélé en 10 maintenant. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Ousmane Dembélé en 10, Soura?
Moi, j'ai beaucoup aimé sa prestation en tant que numéro 10 aujourd'hui, placé un petit peu entre les lignes, essayer de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Même sur certaines séquences où on était en une sorte de 4-1-4-1, où il était en tant que faux numéro 9, accompagné avec un Fabian Ruiz qui était sur la même ligne que lui. Mais là, moi, la chose que j'ai un peu remarqué, et que ça m'arrivera pas forcément, parce qu'on est avec Luis Enrique, mais ça manquait d'un numéro 9 pour faire ce point de fixation et pour laisser un peu les espaces à Dembélé. Je me dis qu'un 4-2-3-1 la saison prochaine avec le Paris Saint-Germain, même si ça m'arrivera pas, ça serait vraiment une belle solution pour Dembélé si jamais tu arrives à prendre un autre ailier droit de qualité, par exemple. Mais je trouve que c'est une solution qui doit être creusée par Luis Enrique. La première face à la Sociedad, il n'avait pas forcément tous ses repères. Il était un petit peu, c'était très compliqué pour lui. Mais sur ce match-là en numéro 10, moi j'ai bien aimé. Il était beaucoup plus présent dans la surface et il avait pas mal d'actions. Il aurait pu mettre un but. Malheureusement, encore une fois, pour moi, de toute façon, c'est un joueur qui n'évoluera jamais sur le registre de la finition. Il a beaucoup, beaucoup de mal dans ce secteur-là. Mais c'est quelque chose qui peut être utile, pas forcément définitif, mais utile si jamais tu n'as pas forcément d'autres options à avoir en numéro 9. Bah, pourquoi pas le tester sur cette position-là? Mais je pense qu'il faut quand même le laisser à droite.
Milan.
Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Soré, après c'est normal, mais je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant que contre la Real Sociedad, où justement j'avais trouvé ce remaniement de poste plutôt intéressant. Tu vois, Ousmane Dembélé qui décrochait et justement arrivait à faire des différences dans ce milieu de terrain. Malheureusement, aujourd'hui, je trouve qu'il a perdu beaucoup trop de ballons, bien qu'il y a quelques actions où il fait toute la différence et au final, bon bah. Comme le dit Soura, la finition, elle n'est pas là, elle ne sera jamais là, je pense. C'est vraiment dommage que c'est un joueur exceptionnel. Enfin, vraiment, Ousmane Dembélé, quand tu le regardes jouer, c'est très, très fort. Il manque juste vraiment cette finition, quoi. Et, tu regardes sur la frappe où il dribble deux, trois défenseurs d'un coup. Il avait plus, on va dire, le plus simple à faire, comme on dit, pour ce genre de frappe. Et au final, il arrive à te la mettre à côté. Bah, c'est pas comme si il la mettait cadrée que le gardien l'arrêtait. Non, c'est vraiment, elle est totalement à côté. Il en a fait plusieurs ce soir. Moi, dans ce milieu de terrain, je pense que c'est quelque chose à travailler. Franchement, je trouve que Ousmane Dembélé peut être ultra intéressant en tant que numéro 10. Mais il faut que Luis Enrique le fasse travailler plus à l'entraînement s'il veut vraiment le placer ici. Parce que je le trouvais plus intéressant justement sur un côté droit avec Achraf Hakimi. Et je pense que c'est là où il doit jouer.
Le point, tu n'as pas tort. C'est vrai que réduit à 10 rapidement, manque de solutions offensives,
Oui.
difficile de juger sur ce match dans cette position. En ce qui me concerne sur le sujet de Ousmane Dembélé en 10, au vu de ses qualités, je pense que ça peut être une excellente idée, notamment quand tu joues contre des équipes qui font beaucoup de pressing et que tu as besoin d'un joueur qui est capable d'éliminer techniquement les joueurs pour ressortir les ballons. En revanche, pour être un petit peu plus honnête, même si j'aime beaucoup l'idée et que j'aime beaucoup le joueur, je pense que c'est quelque chose qui doit se travailler. Si tu me dis que Luis Enrique il travaille ça durant toute la pré-saison cet été et que ça va être mis en place en cours de saison la saison prochaine, avec grand plaisir. En revanche, si tu le travailles là maintenant, il a eu que un repère, c'est 8e de finale de Ligue des Champions, tu le tentes maintenant et que tu te dis que ça va être la solution contre le Barça, alors qu'au final, tu auras eu 3-4 matchs pour travailler cette solution. Là, c'est beaucoup plus risqué. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à travailler. Mais là, dans l'immédiat, sa meilleure utilisation, ça reste ailier droit. Donc, autant le laisser à ce poste pour le moment. Après, si tu le travailles, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais actuellement, au vu de ses qualités, il reste meilleur à droite. Et c'est mieux de le laisser justement dans ce registre, surtout au vu de sa connexion avec Hakimi, qui a quand même été un gros point fort du PSG dans la première partie de saison.
Après, je pense qu'il veut juste rapporter justement un surplus au milieu de terrain. On le sait, notre milieu de terrain depuis le début de la saison, il n'est pas si exceptionnel que ça. Vraiment, il y a beaucoup de matchs où on a du mal. Et contre la Real Sociedad, on le savait que c'était un gros milieu avec de très bons joueurs comme Merino qui auraient pu nous faire extrêmement mal. Et justement, ce surplus de milieu de terrain, c'est ce qui nous a aidé à gagner ce match. Donc, je pense qu'il a voulu faire la même chose face à Marseille. Mais après, le problème, c'est qu'aussi le remplacement de Zaïre Emery à gauche après justement la sortie de Beraldo a fait du mal à ce milieu de terrain.
Juste pour répondre aux commentaires de Vitinha a plus de précision que Dembélé, je pense qu'il faut nuancer par rapport à ça.
De
Un
parler de
Vitinha, ça
finition,
va
je
être.
pense. De parler de
Ouais,
finition, mais
oui,
il
de
n'y a
finition
pas
de
de
précision. Je pense qu'il faut nuancer. Il y a certains milieux de terrain comme Vitinha ou comme De Bruyne qui vont avoir cette qualité de pouvoir mettre des buts d'assez loin, qui vont pouvoir enrouler ce genre de tir-là. Mais par exemple, si tu mets un Vitinha peut-être devant le but sur certaines actions, ça ne va pas forcément faire un mouche à chaque fois.
Non, surtout
Et
que
bien
c'est
vu
blessé depuis
pour le
longtemps.
commentaire d'Ima Kazaoui. La première défaite des Marseillais au Vélodrome cette saison, ça se fait effectivement sortir le champagne. Mais avant de continuer justement sur le sujet, j'allais poser la question de qu'est-ce qu'il a pensé de Ousmane Dembélé à notre nouvel invité. Et bonsoir Kylian, comment tu vas?
Salut les gars, vous allez bien? J'espère que vous m'entendez, ça va?
Très bien, on t'entend
ouais.
super bien. Bah, justement, t'arrives, il n'y a pas de problème, t'arrives un petit peu en cours de route. Et justement, bah, la question que je posais avant que t'arrives, c'était qu'est-ce que t'as pensé du match de Ousmane Dembélé en 10 ce soir?
Ah, franchement, j'étais un peu surpris par sa position. On l'avait déjà vu, c'était un peu inédit contre la Real Sociedad, ce type de position. J'avais bien aimé son match, j'ai un peu moins aimé aujourd'hui, mais je pense que c'était par rapport plutôt à l'animation globale de l'équipe. Donc j'étais un peu surpris, j'ai pas trop kiffé, une action super, mais manque de finition. Mais dans la globalité du match, j'ai pas été super convaincu, quoi, on va dire.
Oui, ça s'entend. Après, justement, bah, ce que je disais, c'était que c'était quelque chose qui pouvait se travailler, mais le tenter à ce moment de la saison sans l'avoir trop travaillé en avance, ça peut être un petit peu dangereux, justement. Alors, formidable, Ellie. Alors, tu sais quoi? J'ai oublié la première partie du commentaire de Draya. Je vais faire comme si ça n'avait pas existé. Voilà, je vais dire formidable, Ellie. Exactement, Draya, on est tout à fait d'accord avec toi. On pense que Dembélé est sûrement mieux en tant qu'ailier qu'en tant que numéro 10. Cependant, ça peut être justement quelque chose à tenter pour le futur. Et maintenant, je vais me permettre de poser la petite question sympathique, la question qui fait aussi plaisir au chat autant qu'aux intervenants, et tout le monde peut y participer, même les personnes qui regarderont ce live en rediffusion. J'allais vous demander, c'est qui vos top et flop de ce soir en en comptant trois maximum? Vas-y Milan.
En vrai, franchement, j'ai envie de dire un truc, c'est flop première mi-temps, top deuxième mi-temps. Il y a eu une très belle réaction des joueurs, mais après, bon, si je dois quand même donner des joueurs, je dirais Vitinha en 1. Franchement, je pense que depuis qu'il est arrivé, Vitinha, j'adore ce joueur. Je l'avais suivi à Porto. Je l'avais trouvé ultra intéressant. Même il y avait un peu plus de mal avant le Wolverhampton. Mais là, ce qui fait que le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est du très très lourd cette saison. On l'avait vu la saison dernière. Il a eu des problèmes, on le sait, avec certains membres du vestiaire. Cette saison, il est libéré, ça se sent. Et sous Luis Enrique, ça fait extrêmement mal. Et sur ce match-là, ça se voit. C'est lui qui fait la différence sur ce but où il fait cette 1-2 avec Hakimi, même si Hakimi l'aide énormément, forcément. Mais franchement, non, sur cette saison, heureusement qu'il est là sur certains matchs. Après, franchement, la rentrée de Ramos est très bonne. Je l'ai trouvé un poil mauvais sur la fin, mais après, bon, bah, on était à 10, il y avait beaucoup de jeux à faire. On était mort à la fin du match, faut se le dire. Hein, quand tu joues à 10 contre Marseille au Vélodrome, forcément, que surtout qu'on jouait beaucoup les contres, donc ça nous a fait du mal à la fin du match où il fallait qu'il défende plus. Il a beaucoup décroché au milieu de terrain pour justement aider ce milieu de terrain à essayer de remonter les ballons. Mais après, franchement, le troisième, Donnarumma, franchement, merci Donnarumma d'être là. Même si on s'en prend un, il est hors jeu. Bon, même si j'ai un peu du mal à avoir le hors-jeu, bah, franchement, s'il n'est pas là, je pense qu'on s'en prend un ou deux encore sur cette saison. Donnarumma, encore une fois, il prouve que c'est un des meilleurs gardiens d'Europe, et je ne comprends pas ceux qui veulent le voir dehors, même si au pied c'est pas non plus, c'est pas un Ederson, c'est pas, voilà, mais c'est sur sa ligne, et quand il s'agit d'arrêter un ballon, il est présent, et sur ce match il fait la différence. Après, les flops, dommage pour le milieu de terrain. Je pense à Warren et à Fabian qui ne font pas un match extraordinaire. Bon, Warren, après, le pauvre, il a été placé défenseur gauche. Donc forcément, ce n'est pas son poste de prédilection. Déjà qu'à droite, où il a beaucoup plus joué, il avait du mal. On l'a pu le voir lors des derniers matchs. Mais là, à gauche, tu sens qu'il a passé repère. Et forcément, bah, ça fait mal pour Warren, parce que bah, on sait que c'est un joueur de grand talent, mais malheureusement, je trouve qu'il peine à revoir un grand Warren. Et après, bon, bah, en dernier, je pense à Kylian. Genre sur ce match de match, sur ce genre de match, je m'attendais à un très grand Kylian Mbappé. Il n'a pas été présent. Après, pour dire un flop, je trouve qu'il a été intéressant sur certaines touches de balle où il a réussi à faire de la différence, mais malheureusement, des fois, il manque de rapidité. C'est-à-dire que à un moment où tu dribbles un, deux joueurs, fais la passe, non, il préfère la continuer, tenter de faire quelque chose. Alors, c'est un joueur qui justement veut tout faire, veut marquer, veut être à la finition, à la passe. Mais malheureusement, il y a des fois où tu n'y arrives pas et il faut que tu fasses la passe. Donc, j'ai trouvé que justement le faire sortir, Luis Enrique a bien fait de le faire sortir, et justement, bah, en plus, il fait sortir pour Ramos qui marque juste après. Donc voilà.
Bah, Kylian, justement, je vais te poser la question. Et avant que tu y répondes, maintenant, tu vois, genre, quand tu vois Luis Enrique, le Marseillais avec un H, au moins vous verrez la différence entre celui qui a un H et celui qui n'en a pas, et ça vous apprendra peut-être à l'écrire correctement. Mais sur cette vilaine vanne d'orthographe, j'allais te demander ton avis à toi, Kylian, c'est qui tes top et flop de ce match?
Hop, top et flop. Premier flop, je pense que je mettrais Fabian Ruiz. Je crois que j'ai fait une fixette sur lui pendant les 40 premières minutes. J'ai pas du tout aimé son match. Il y a une passe qui m'a fait péter un plomb. Je crois que c'est Dembélé qui est pas en profondeur. Il envoie une cacahuète en sortie de but. Donc premier flop, je mettrais Fabian Ruiz. Deuxième flop, Mbappé, parce que forcément, on en attend plus. Hein. Il a dit qu'il n'était pas perturbé quand on voyait ses performances, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un peu perturbé, justement. Et troisième flop, je mettrais Warren, mais Warren, c'est plus par rapport à son positionnement. Je ne pense pas qu'il y soit pour grand-chose. Aujourd'hui, c'est plus la façon dont Luis Enrique va l'utiliser. Top, je te mettrais Donnarumma. Donnarumma, très bon match. Et l'entrée de Ramos. Ramos qui a fait une très bonne entrée clinique sur son occasion. Et aussi top pour la célébration au Vélodrome. Ça fait toujours plaisir. Donc rien que pour ça, tu le mets en top. Et voilà. Voilà, c'est tout.
Alors, avant de faire passer Soura, je vais me permettre une petite friandise pour nos abonnés. Quelqu'un qui va sûrement vouloir donner son avis sur ces top et flop, mais je pense surtout qu'il va vouloir chambrer les amis marseillais qui regardent cette vidéo. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour l'un des plus anciens membres de cette émission. Faites un maximum de bruit pour Barry, bien entendu. Comment ça
va ? Vous êtes où, les gars ? Ils sont où, les gars ? Ils sont où, les gars ? Écoutez bien, je suis monté juste pour vous donner ces stats. Et ces stats, elles sont exceptionnelles. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire, gamin. J'ai jamais vu, les gars, depuis 2017.
Là, on l'a évoqué. Ça,
2017. L'OM n'a pas marqué contre le Paris Saint-Germain en championnat. 2017. Est-ce que vous savez c'est quoi, 2017 ? Les gars, en 2017, j'étais même pas
encore
pas les mecs. C'est du jamais vu, gamin. C'est du jamais vu, gamin. Match, allez. Oh, vas-y. Sans Mbappé, c'est personne. Allez, 1, 2, 3, 4, 0, dehors. Match retour. 10
contre 11. À 10 contre 11. 10 contre 11,
1-0. Mbappé sort, 2-0. Au final, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit jouer à 8 contre 11 ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit jouer sans gardien ?
Moi, je dis la prochaine fois, il faut être sympa, on fait jouer le Tellier. Il y aura peut-être match là, à ce moment-là.
Les gars, moi je pense qu'arriver à un moment, parce qu'en fait, dans le football, on m'a toujours dit, pour être une grande équipe, il faut un grand gardien et un grand attaquant. Donc, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de jouer avec Kylian Mbappé et avec Donnarumma. Il faut qu'on joue avec pas de gardien, pas d'attaquant, que des milieux de terrain. Et vas-y, on met Danilo tout seul en défense et peut-être qu'ils auront une chance de gagner.
Peut-être. Alors, justement, Paris, tant que tu es là, j'allais te demander ton avis avant que tu redescendes. Je sais que tu ne resteras pas très longtemps. C'est qui tes top et flop, toi, ce soir ? Et après, je laisse
top, je mets Vitinha. Vitinha, parce que bon, même si en fait, pour faire un petit résumé, en première période, c'était brouillon, très très brouillon des deux côtés. Hein, des deux côtés, il y avait beaucoup de lacunes techniques. Le Paris Saint-Germain ne ressortait pas un ballon, l'OM ne ressortait pas un ballon. Il y avait Dembélé qui était assez intéressant, mais moi j'ai un problème avec le Dembélé numéro 10. J'en avais parlé après sur la Sociedad, si tu te rappelles bien. Le problème avec Dembélé numéro 10, c'est que Dembélé c'est un joueur à risque qui perd beaucoup de ballons, et donc l'avoir dans l'axe du terrain lorsqu'il perd un ballon directement derrière, tu sens que voilà, ça paye cash. Face à une équipe qui joue mieux au ballon, moi je vous dis, hein, je pense que on se fait poutrer. Il faut parler français, hein, on se fait poutrer. Parce qu'aujourd'hui, l'OM, ils ont quand même 22 tirs, même s'il y a une grosse partie des tirs qui ont été mis en seconde période lorsqu'on jouait à 10 et qu'on avait arrêté un peu de jouer, entre guillemets. Mais voilà, ils ont quand même 10 tirs cadrés. Donc on a la chance d'avoir un gros gardien. Mais c'est vrai que voilà, ces pertes de balles de Dembélé, on les a senties dans les actions marseillaises. Donc Dembélé, moi je le mettrais en flop, hein, déjà pour parler dans les flops, je mettrais Dembélé. Après en top, je mettrais quand même Vitinha, parce que voilà, il a fait quand même un match assez cohérent dans l'ensemble.
Et merci Harry, désolé de t'interrompre Barry, mais merci beaucoup Harry.
Match assez cohérent. Après, un deuxième top. Bon, en fait, son match il est un peu en demi-teinte, parce que la seconde période est très bonne, la première est très mauvaise. Je mettrais Danilo. Parce que voilà, première période, c'était, comme j'ai dit, c'était complètement brouillon. En seconde période, c'était mieux. En santé, il était sur tous les ballons aériens. Voilà, il était souvent au contre, etc. Donc, je mettrais Danilo, même si bon, ça me fait un peu grincer les dents. Puis après, homme du match, Donnarumma qui fait un match, encore une fois, exceptionnel, rien à dire. Et puis surtout, pour moi, l'homme du match de ce match-là, même hormis Donnarumma, c'est le coach, le coaching du coach. Moi, dès qu'on sort de la première période, qu'on arrive à 10 et que je vois Lee Kang-in, j'ai directement flashback du match qu'on avait fait contre Reims où on joue à 10 et derrière en transition rapide on leur laisse rien en fait. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on perd un Beraldo, donc on doit tout réadapter et du coup on sent que derrière le Paris Saint-Germain en transition rapide est meilleur. On met deux buts en transition rapide, le premier et le second. Donc oui, le coaching du coach, rien à dire. Tu sors Kylian Mbappé qui pour moi est un autre flop. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, on va commencer à en parler de Kylian Mbappé sur Nuno Mendes sur le côté gauche, parce que Moi, ça commence un peu à me faire grincer les dents, tu vois. Mais voilà. Mais voilà, tu sors Kylian Mbappé, puis derrière, tu déroules quand même. Tu fais rentrer Gonçalo Ramos qui fait une bonne entrée. Asensio, c'est lui le passeur décisif. Et sinon, globalement, il a été assez intéressant. T'as Hakimi aussi, Hakimi que j'aurais pu mettre en top. Même si pour moi, c'était les montagnes russes. Il a été bon, moins bon. Mais globalement, il était assez linéaire dans son niveau. Donc, je pourrais le mettre en top. Puis Lucas Hernandez aussi, que je pourrais mettre en top aussi. Voilà, c'est ce que j'aurais dit.
Alors Fabien, je suis pas sûr que la référence à Cédric Doumbé soit la bonne. Moi, je dirais plutôt que Marseille a pris une décharge dans le pied ce soir et que du coup, c'était compliqué de continuer le combat. Mais Soura, j'allais te demander plutôt, c'est qui à toi, tes top et flop de la soirée?
En
Bon les
top,
gars, moi je vous laisse.
Bonne soirée Barry, en tout cas, et à une prochaine.
Ça m'a fait plaisir. Je veux pas insulter parce que voilà, on est quand même sur Paris
Central. Non, non, non,
mais les
fais
gars,
pas sauter le live.
Ici, c'est Paris, les gars. On
Mais
perd
reviens
pas, nous.
vite. Et non, on perd pas nous, mais reviens vite Barry, en tout cas. Et vas-y Soura, justement, c'est qui toi, tes top et flop de la soirée?
Vitinha, parce que mine de rien, en tant que résistant, on va dire, il arrive à être encore une fois décisif et important au milieu de terrain. C'est celui qui est le plus sollicité dans l'entrejeu parisien. Et ça, c'est important. Et il se libère, il tente des choses aussi. La manière où il fait quelques petits sombreros, ça reste important. 7 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Vitinha cette saison. Donc ça a le mérite d'être notifié pour lui. En autre top, je mets Gianluigi Donnarumma. Pour moi, c'est le meilleur gardien au monde cette saison. Ça peut se taper avec d'autres gardiens, mais pour moi, il est top 5 et il n'est pas cinquième de meilleur gardien à son poste. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, il est toujours aussi décisif et c'est un gardien qui fait gagner énormément de points à son équipe. Et on voit la différence, hein, quand on a un gardien qui est libéré psychologiquement et qu'on ne met pas de gardien dans les pattes. C'est toujours un plaisir de voir ça. Et en autre top, je vais mettre Luis Enrique, comme l'a dit Barry, sur ses choix tactiques et sur sa manière dont il arrive à réagir parfaitement sur la manière dont un match se déroule. Je pense qu'il a une très bonne lecture des matchs lorsqu'elle se déroule. Et ça, c'est très important pour un coach et encore plus pour un tacticien, parce qu'il faut savoir s'adapter lorsque tu ressens que ta tactique n'est pas forcément optimale ou propice, ou même qu'il y a des couacs, comme ce qui s'est passé avec le carton rouge. En parlant de carton rouge, flop Benoît Bastien. Qui a écopé d'un 19 sur 20 en plus dans sa performance, le culot à son paroxysme.
Attends, c'est
19
vrai
sur
ça?
20, oui, c'est
Laisse-moi
vrai, c'est
finir.
vrai. Free Ligue 1, 19 sur 20, le. Bon, écoutez.
Bon, Ligue 1 McDonald's.
Non, non, mais ils veulent garder les droits, ils ont raison, ils veulent garder les droits.
19 sur 20, pour moi, 19 sur 20, c'est à l'image du baccalauréat, il est donné à n'importe qui. Écoute, c'est comme ça, c'est la vie. En autre flop, l'Olympique de Marseille, perdre à 10 contre 11, je suis désolé. Nous, on est parisiens, on profite de la victoire, il n'y a pas de souci. Mais t'es Marseille, tu perds à 10 contre 11, c'est une faute professionnelle. Et pour moi, je pense qu'il faut se remettre en question chez certains joueurs. Parce que bon, Gasset n'est pas forcément un très bon coach non plus, hein. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et en troisième flop, je mettrais Fabián Ruiz parce qu'au milieu de terrain, c'est un joueur qui est trop lent, qui n'a pas cette faculté de pouvoir s'orienter très rapidement face au jeu. Il est beaucoup trop de passes latérales, donc voilà. Donc, ça sera mes trois flops.
Alors, moi, de mon côté de mes top et flop, je ne pense pas que je vais être hyper original vu que beaucoup de choses ont été dites. Alors, justement, Warren, je pense que quand tu as vu la prestation de Luis Enrique du côté de Marseille ce soir, je pense que tu as dû voir la différence entre celui qui a un H et celui qui n'en a pas. Je pense que ça te servira de leçon pour la suite. Mais blague à part sur cette mauvaise vanne d'orthographe, concernant mes top et flop, je vais mettre forcément Vitinha dans les tops. Il est monté au fur et à mesure en puissance, au fur et à mesure de la rencontre. Il a perdu peu de ballons, il a fait finalement ce qu'on demandait de lui à ce poste et il s'est même projeté et a marqué le premier but. Donc difficile de ne pas le noter dans les tops ce soir. En deuxième top, j'ai envie de mettre Gigio Donnarumma, forcément un super match encore, plusieurs parades décisives, et je ne pense pas que le PSG aurait gardé sa cage inviolée si un gardien d'un autre niveau aurait été dans les cages ce soir. En tout cas, il fait son match et c'est à souligner, il monte clairement en puissance. Il doit toujours s'améliorer, bien entendu, ballon au pied pour correspondre à ce que recherche Luis Enrique. Mais en tout cas, en tant que gardien, il remplit son taf et ça fait plaisir de terminer ce match avec un clean sheet, surtout à 10 contre 11. Alors, merci pour ton don, Harry. J'ai juste terminé mes top et flops et si tu veux, j'en parlerai vite fait, même si on l'a un petit peu évoqué. Au niveau de mes flops, du coup, j'aurais que deux tops. Au niveau de mes flops, je vais être bon. Pas très très sympa non plus. Je vais mettre Kylian Mbappé pour la simple et bonne raison que à chaque fois je suis plus exigeant envers un joueur de top niveau qu'envers un joueur de moins bon niveau. J'aurais toujours plus d'exigence envers Kylian Mbappé qu'envers Carlos Soler, pardon, et ça me semble tout à fait logique. Je pense que un petit peu une surcharge de match en ce qui le concerne, peut-être la tête ailleurs. Je préfère le voir en tout cas après contre le FC Barcelone que ce soir contre l'Olympique de Marseille. Pas bon match ce soir, on n'en retiendra pas grand-chose. J'espère en tout cas qu'il se réveillera au bon moment. Mais ce soir, j'en retiendrai pas grand-chose. Il a peu provoqué, il a peu été dangereux dans la surface adverse. Donc je reste sur un flop sur ce coup le concernant. Deuxième flop, j'ai envie de mettre Fabian Ruiz dans le sens où les joueurs progressent petit à petit, l'équipe se sent mieux, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas forcément bien l'an dernier sous Christophe Galtier vont mieux, à l'image de Vitinha notamment par exemple. Et là, j'ai plutôt l'impression que plus la saison avance et moins Fabian Ruiz est à l'aise dans son poste. Il avait fait quand même des bonnes prestations au poste de 6 à la fin de l'hiver. Et là, étonnamment, mis à son poste en tant que 8 avec un 6 derrière lui pour lui éviter d'être trop bas sur le terrain, eh ben, t'arrives pas à en tirer le meilleur. Ben, il aurait pu avoir un but sur une passe en retrait de Kolo Muani en début de match. Il aurait pu également avoir une passe décisive s'il avait mis la passe dans le bon tempo pour Ousmane Dembélé au lieu d'envoyer une cacahuète, comme ça a été dit précédemment. Et même beaucoup d'erreurs techniques, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal. Et je pense que à terme, Fabian Ruiz sera comme il a été en sélection avec Luis Enrique, c'est-à-dire une solution si tu n'as pas d'autre solution, mais si tu peux avoir mieux, tu vas chercher mieux. Et je pense que ce sera tout au niveau de mes top et flop. Et pour répondre justement à Harry, qui quand même nous a fait des dons, et je pense qu'il a posé une question qui mérite d'être répondue, concernant le carton rouge sur Beraldo, j'étais assez choqué personnellement, étant donné que tu n'appelles pas l'avoir pour un second carton jaune, tu ne mets jamais un carton rouge sur ce genre d'occasion. Et même, pourquoi mettre un jaune pour un duel à l'épaule contre épaule? Je cherche encore la réponse à cette question.
Dernier défenseur, apparemment, de ce que l'excuse qu'on aurait sorti.
Dernier défenseur à 55 mètres du but, avec une latitude de encore 50 mètres pour attraper le dernier attaquant. Non, tu ne mets pas dernier défenseur. Alors, surtout que
c'était ça.
Surtout que la règle du dernier défenseur, excusez-moi les mecs, mais il faut se mettre à jour, elle n'existe plus en 2024. Donc, tu ne peux pas mettre le carton rouge pour ça, et tu n'appelles pas l'avoir pour mettre un deuxième jaune, et même le jaune, à quel moment tu mets un jaune pour un duel à l'épaule contre épaule?
C'est même pas un deuxième jaune, c'est un rouge direct.
Il s'est réalisé. Ouais,
mais tu ne mets pas le rouge de toute manière, c'est clair. Déjà pas pour un duel à l'épaule.
Je trouve que Beraldo avait super bien défendu cette action. D'ailleurs, je trouve que Recoba, il a tweeté sur ça, petite dédicace à un autre membre de Paris Central, que même les défenseurs, Chéroux, Rami et Van Buyten, qui étaient sur Prime, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il y avait trop Marseillais pour un match, pour un Classico, mais étaient d'accord avec le fait qu'il n'y a absolument pas faute. Déjà, carton jaune, ça aurait été surprenant d'avoir faute, c'est surprenant. Alors, rouge tout de suite, c'est pas possible. Moi, tout de suite, quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, mais Beraldo, enfin, voilà, un joueur, il met son physique sur la table, il pousse Aubameyang comme il le peut. Après, le terrain était mouillé, Aubameyang a glissé jusqu'au pied de Luis Enrique, mais il n'y a absolument pas faute. C'est un duel épaule contre épaule. Alors, certes, sa main se décale après, après, il pousse pas vraiment le joueur, en fait.
Il pousse peut-être, mais en tout cas, il a mis l'épaule et c'est avec l'épaule. Moi, ce que je te dis, c'est si encore tu me dis que le geste de la main, c'est celui-là qui a déséquilibré Aubameyang, tu peux en discuter. En revanche, étant donné que c'est l'épaule qui fait déséquilibrer Aubameyang, et là, pour le coup, tu as les images, c'est un peu moche. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Kylian, avant de conclure un peu et d'aller sur les dernières questions du chat?
Moi, je peux comprendre à rigueur qu'il siffle la faute. Par contre, sur le carton rouge direct, c'était aberrant. On a vu les ralentis, même Luis Enrique le relève tranquille. Il y a un moment de flottement bizarre. T'as Jean-Louis Gasset qui saute en l'air comme si c'était la faute du siècle. Donc, on n'a pas compris. Après, je pense que ça a joué un peu sur tout le match. Parce que quand tu vois les décisions de l'arbitre après, on voit qu'il essaie un peu de se rattraper. Tu vois, il est un peu plus indulgent. Et du coup, ça fausse un peu tout le match sur le côté arbitral, je trouve. C'était mon ressenti, en tout cas.
Merci en tout cas le pointu pour ton don. Je vais maintenant me permettre de sélectionner les quelques questions que j'ai sélectionnées au cours du live dans le chat et les poser aux intervenants avant de conclure ce live. Alors lesquelles on n'a pas abordé justement? Tiens, étant donné que vous deux vous avez déjà parlé sur ce sujet, je vais plutôt poser cette question à Kylian. Qu'est-ce que tu as pensé toi de la rentrée de Skriniar, vu que tu n'étais pas là quand on avait abordé le sujet?
Skriniar, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. On sait qu'il revient d'une très longue blessure. Moi, je ne m'attendais pas à le revoir cette saison. Donc je vais être plutôt indulgent avec Skriniar. Après, c'est vrai que le premier duel qu'il a eu, il m'a fait très peur. S'il prend but sur le premier duel, vraiment, j'aurais pas eu du tout le même discours. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Aujourd'hui, on a un Danilo qui est un peu en difficulté. On a des blessés, notamment Marquinhos en défense centrale. Je pense qu'il faut lui laisser du temps et du rythme. Mais bon, je vais être indulgent pour cette première fois, on va dire.
Mmh. Question suivante, je vais la poser justement maintenant à Milan. Hop là, je vais faire ça comme ça, je vais m'éviter le chat. Vitinha, très rassurant avant le Barça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
En toute objectivité, je pense que je ne peux pas être objectif avec Vitinha. C'est un joueur incroyable sur ce Paris Saint-Germain-là. L'année dernière, il a été en dessous en seconde partie de saison, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais cette saison, depuis que Luis Enrique est sur le banc, on le sent beaucoup plus serein. Quand tu le mets numéro 6, il est là. Quand tu le mets au milieu de terrain, il est là. Quand tu peux le mettre un peu plus offensif, il est là. Franchement, non, c'est un très bon joueur. Rassurant avant le Barça, forcément, quand tu vois le milieu de terrain du FC Barça. Barcelone. Tu sais, voilà, même des petits jeunes comme Fermín, ils peuvent faire peur, ils peuvent faire mal au Paris Saint-Germain. C'est Barcelone, ils sont bons pour justement créer des petits jeunes qui sortent de nulle part. Vitinha, forcément, il est rassurant. Maintenant, va falloir que le milieu de terrain il soit là pour l'accompagner. Voilà, on le sait, quand Vitinha peut être tout seul, il y a des moments où justement il va pas forcément sortir une très grande performance. Je compte sur Warren, forcément, pour sortir un gros match. Peut-être sur Fabian, je ne sais pas qui sera titulaire sur Ugarte, mais en tout cas, voilà, moi j'ai totalement confiance en Vitinha et je pense que justement pour qu'il prenne encore plus confiance, il faut être plus derrière lui. Je pense aux gens qui font que être derrière son dos depuis le début de la saison. Alors que plus la saison avance, plus j'ai l'impression qu'il s'améliore. Donc non, franchement, c'est très rassurant. Et même, c'est très rassurant pour les années à venir. Voilà, Vitinha, c'est un très jeune joueur. Il a encore de belles années devant lui. Et j'espère que ces belles années, elles se feront dans notre club, au Paris Saint-Germain.
Justement, Soura, prochaine question. Nuno, repos pour toi ou autre chose?
Non, pour moi, c'est du repos. On ne va pas prendre de risques avec lui. C'est un jeune joueur. Même si, pour moi, par rapport à Nuno Mendes, comme je l'avais dit samedi, moi, j'estime qu'il faut quand même prendre un autre joueur au cas où, parce qu'il ne faut pas forcément être en confiance avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour un jeune joueur, être autant blessé, même s'il y a eu une opération, c'est pas sans conséquence, c'est pas sans risque, et ça met du temps à revenir. Pour un jeune joueur, il met beaucoup de temps pour revenir quand même, Nuno Mendes. Donc moi, je suis quand même pas forcément serein par rapport à lui. Et même quand on parlait de prolongation, moi j'estimais qu'il fallait encore patienter avant de prolonger avec lui. Donc pour moi, je pense que c'est une histoire de le mettre au repos, de ne pas forcément réellement prendre de risques avec lui dans un match important, même si finalement ce n'était pas à haute intensité parce qu'on a fini très rapidement à 10. Mais je pense qu'il faut voir si jamais par contre il n'est pas titulaire face à Rennes ou au moins il ne rentre pas à la 60e minute de jeu. Là, je pense qu'il faudra s'inquiéter puisqu'il ne restera plus qu'un match avant la réception du FC Barcelone.
Alors justement, prochaine question dans le chat, et celle-là, je vais la poser. Je n'ai pas encore répondu à des questions. Où est Marquinhos? Alors ça, c'est une bonne question. Apparemment, il a une blessure au tendon d'Achille. On sait que c'est justement une blessure assez sensible. Et quand on sait que tu dois utiliser beaucoup ton pied pour courir, marcher et défendre, je pense que tu fais de la même manière que tu as fait avec tous les joueurs qui sont blessés depuis le début de saison. C'est prise de risque minimale. Tu essaies d'être sûr que le joueur aille au mieux avant de le faire revenir pour éviter la rechute rapide comme tu as pu le faire les saisons précédentes avec les précédents coachs, notamment concernant Nuno, Verratti et Neymar. Justement, maintenant, la dernière question, elle sera un peu d'ordre général et je vais laisser un peu chacun y répondre. Je vais commencer par Kylian, vu que tout le monde a déjà commencé sauf lui. Est-ce que pour toi, Vitinha a les capacités pour devenir un top 5 à son poste ou t'es pas d'accord avec Anis, comme il le dit lui-même?
Top 5 mondial, on parle?
À son poste. Est-ce que tu penses qu'il a ce potentiel ou pas pour toi?
Non, pour moi, ça peut devenir un très très bon milieu de terrain, enfin un très bon milieu de terrain, mais de là à devenir top 5 mondial, non, pour moi non. Il y a des top cracks, pour moi, il n'atteindra jamais le niveau, je ne sais pas si on peut le comparer à un Bernardo Silva, un Pedri, quelque chose comme ça. Pour moi, il n'ira jamais aussi haut, même si dans le profil, ce n'est pas forcément comparable, mais vous voyez ce que je veux dire en termes de niveau. Pour moi, ce ne sera jamais vraiment le crack, et le crack vraiment, c'est mon avis.
C'est ton avis, souvent. Vas-y. D'accord.
Je trouve que il y a des qualités, il y a un potentiel. Normalement, il y aura pas forcément cette fibre que peut avoir, par exemple un Bernardo Silva, un Pedri ou d'autres joueurs de classe mondiale. Il est encore bien trop bridé à faire pas mal de passes latérales au milieu de terrain. Il a pas forcément ce jeu long ou même dans les passes courtes. Il a pas forcément un jeu qui va casser des lignes directement. C'est un joueur qui va souvent faire des différences par la course ou même en éliminant des joueurs lui-même en un contre un. Ça peut, comme l'a dit Kylian, être un joueur qui est un des meilleurs, pas forcément top 5. Top 5, pour moi, c'est une caste rare, top 5. C'est pas possible de dire top 5. Top 5, déjà, t'as déjà 5 milieux qui sont devant. T'as même au moins 20, allez, pour être gentil avec lui, 10 milieux qui sont au-dessus de lui. Tu en as au moins 10 qui sont au-dessus de lui. Et c'est pas un problème, c'est pas une honte en soi. Des clubs comme Liverpool ont gagné la Ligue des Champions, ils n'avaient pas forcément les meilleurs partout à leur poste. Mais c'est un ensemble de tout, un effectif qui est bien cohérent, qui est bien construit. Après, Vitinha reste un très bon joueur, mais de là à penser qu'il sera top 5, moi je ne pense pas, parce qu'il y a encore d'autres joueurs plus établis que lui à ce poste-là.
Et j'appelle à la barre l'avocat de Vitinha. Justement, Milan, qu'est-ce que tu penses de cette question?
Non, mais Franchement, non. Si moi je dois parler vis-à-vis de Vitinha, je pense que ça dépendra aussi de qui on recrutera pour l'accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, le milieu de terrain est assez faible. Je pense que c'est lui, cette saison, qui sort un peu du lot. L'année dernière, je trouvais que Warren Zaïre-Emery était plutôt bon sur cette début de saison. Il était aussi, mais Vitinha, depuis le début de la saison, ça fait qu'augmenter son niveau. Moi, l'ayant vu à Porto, j'estime qu'il a encore plus de potentiel. Il a des choses qu'il faisait à Porto qu'il ne fait pas encore au Paris Saint-Germain. Et je pense que ça va prendre encore un peu de temps parce qu'à Porto, justement, il avait encore cette créativité, cette jeunesse un peu à faire un peu n'importe quoi, tout ce qui lui passait par la tête et il le faisait. Après, franchement, Vitinha, non, ça dépendra justement de qui l'accompagnera. Si tu lui mets deux top milieux à côté de lui, top 5 milieux, il peut le faire. Quand j'entends Soura dire qu'il a 10 milieux de terrain au moins devant lui cette saison, si tu prends.
Clairement, oui. Clairement, oui.
Si tu prends.
Laisse-le finir, laisse-le finir. Vas-y.
Si tu prends. Les moments où il est au top, justement, moi je trouve que ça fait bien 2 mois où tu l'as pas vu non plus faire un match trop, enfin, toujours un minimum intéressant dans le jeu. Mais je pense que justement, vis-à-vis de ce qu'il fait avec ce milieu de terrain-là au Paris Saint-Germain, je pense que vraiment c'est un très très bon joueur qui a beaucoup de potentiel au Paris Saint-Germain. Voilà, on le sait, il y a même des gros clubs, bon, des gros clubs qui le suivent. Voilà, on sait que Chelsea se pose la question de pourquoi pas le recruter, à mettre l'argent sur lui. Moi, Vitinha, je le garde 100% au Paris Saint-Germain. Et pour moi, si prochain mercato, tu dois prendre deux joueurs, tu prends des joueurs pour l'accompagner et justement pour le mettre en valeur sur ses qualités à lui et
Ou
pas
le
faire ce
mettre
qu'il
en
ne sait pas faire.
concurrence, ou le mettre
Ou
en
aussi,
concurrence.
mais le problème, c'est que le mettre en concurrence avec qui? Il y a Warren Zaïre-Emery. Il faut justement qu'il ait une plus grosse
Oh là là
concurrence.
là là. Alors merci
Mais.
pour l'argent, mais le.
Alors, ça c'est son avis. Vous avez tous donné vos avis.
Alors,
Ça
par
c'est
contre,
celui de.
non,
Ça
non,
c'est celui de Harry.
mais,
Chacun le sien.
mais,
Chacun le sien.
mais, mais franchement, non. Vitinha, c'est un top joueur en devenir. Si vraiment il continue comme ça au Paris Saint-Germain, sous Luis Enrique, surtout sous Luis Enrique, il peut faire extrêmement mal.
Et si c'était un petit peu plus nuancé que vos avis? Est-ce que genre c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, ce serait pas un peu gris? Je m'explique. Il y a des joueurs qui, comme Kylian Mbappé, à 18 ans, explosent au niveau mondial, c'est acté, les mecs ça va être des top joueurs toute leur soirée. Enfin, toute leur soirée, toute leur carrière, pardon, excusez-moi. Et ça se ressent du début à la fin, Cristiano Ronaldo, Messi, les mecs performent du début à la fin. Et t'en as d'autres qui ont des carrières plus linéaires, on va dire. Des joueurs qui passent des paliers. Et en fonction de certains âges et de certains moments de leur carrière, ils passent des paliers qui leur permettent de devenir des joueurs qui progressent petit à petit. Moi, je pense que Vitinha, à terme, quand il aura son prime, parce que j'estime que le prime d'un joueur est entre 28 et 32 ans quand tu suis une carrière classique et linéaire, je pense qu'une fois que Vitinha sera à son prime, ça pourra être un joueur très intéressant mondialement. En revanche, moi, j'aime bien dire, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais joueur, il n'y a que des histoires d'utilisation et de trajectoire de carrière. Si Vitinha continue de se développer dans des clubs où il sera mis en avant, où il pourra développer son potentiel et améliorer ses lacunes, parce qu'il n'a que 24 ans, on ne parle pas d'un joueur de 32 ans, il peut encore progresser là où il a des défauts. Si notamment il développe ce fameux, et là je vais être plus concret sur le défaut que je lui reproche, s'il débloque son complexe de la passe latérale et qu'il se met enfin à prendre plus de risques dans son jeu, je pense que ça va être très difficile de le réduire à un joueur moyen sans potentiel. En revanche, peut-on garantir qu'il atteindra forcément ce niveau? Ça me semble quand même un peu tôt et finalement ça dépendra complètement de sa carrière en fait. Ça dépendra complètement de ses choix de carrière et où il jouera.
Bah
Tout simplement.
après,
De
pour
là où
parler de la.
découle cette question, ce qui est relou, c'est qu'à chaque fois, on va chercher à comparer des comparaisons. On a
Oui!
commencé à dire ce qui peut être top 5.
Non!
Non, pas forcément nous
C'est
au
vous qui
plateau,
essayez de
mais.
comparer. Il ne faut pas chercher à le comparer à notre joueur.
C'est ça,
Si
en
tu
fait.
as.
Après, le problème,
L'erreur,
c'est
tu vois,
qu'il y a
ça veut comparer.
énormément de personnes qui ont
Cette
été
communauté, on
trop
veut
dures
toujours
avec lui.
comparer, comparer,
Non,
comparer,
on a
comparer.
été beaucoup trop dur avec lui, notamment sur Twitter, où tu vois, il y a
Ouais.
des gens qui sont toujours
Après,
derrière
si
son dos,
vous
c'est
écoutez
horrible.
Twitter, les gars, Twitter,
Non,
c'est pas
mais
la
non, mais
réalité.
ce que je veux dire par
Twitter,
là,
c'est
c'est
pas la
que
réalité.
c'est
Non.
certes
Prendre
la
les avis de
réalité,
Twitter, c'est. Pour prendre
mais il y
les
a quand
avis de Twitter,
même
c'est
beaucoup
prendre
de
le
monde
bas-fond du humanité, déjà.
qui lui ont sauté dessus. Et pas que sur Twitter, il y a des moments où j'entendais des choses sur d'autres plateaux qui à
Ouais,
son
mais
encontre
que ce
qui
soit les plateaux,
sont.
que ce soit Twitter, c'est qui l'entraîneur? C'est Twitter ou c'est Luis Enrique? C'est pas
Merci.
important. Sur ce qu'il y a sur Twitter, Twitter,
Non, mais
t'imagines,
il a
je suis
dit,
totalement
non,
d'accord avec
il a
toi.
dit.
Tu éclates cette bulle, la réalité, elle disparaît. C'est pareil, ça fait comparaison avec Verratti. Depuis
Ouais,
son
mais ça,
arrivée,
c'est
ça le
horrible.
compare à Verratti. C'est toxique. Aujourd'hui, on veut comparer sans cesse des joueurs avec d'autres joueurs. Le coach, c'est Luis Enrique. S'il le titularise, c'est qu'il y a une raison. Et elle est justifiée, sa raison, parce qu'il est très bon sur cette saison-là. C'est un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Mais c'est Twitter, exactement. Twitter, c'est pas la réalité. Twitter, c'est niche. Et c'est nul en plus.
Non, mais
Voilà,
juste
faut pas se réfléchir à ça.
pour rajouter un truc,
Termine.
on parle de son défaut justement de la passe latérale, mais je trouve que quand il tente justement des passes en avant, je pense à cette transversale contre Toulouse au Trophée des Champions au Parc des Princes, il te met une transversale magnifique et justement c'est une belle passe en avant qui au final va au fond sur cette
Trop
frappe de
rare.
Kanguinli. Mais en fait justement, c'est que je trouve qu'il ne les tente pas assez. Je pense qu'il faut justement qu'il étende plus. Alors, surtout en plus que tu as des joueurs qui peuvent partir en profondeur. Quand tu as Colomoani qui était titulaire ce soir, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, tu as des joueurs qui ont de la vitesse, qui peuvent y aller. Donc, mais je pense juste que c'est une histoire aussi de confiance en lui. Vis-à-vis de ça, il faut quelque chose qui bosse avec Luis Enrique. Mais s'il arrive justement à travailler sur ce défaut-là et envoyer plus de ballons en profondeur, que demande le peuple?
Peut-être un
En
manque de
tout cas,
personnalité, peut-être.
vas-y, Kylian, tu voulais dire.
Non, je voulais dire que c'est peut-être un manque de personnalité. Après, pour revenir sur les commentaires, moi, je vois beaucoup de commentaires comme quoi on est très dur avec Vitinha. Juste, les gars, quand on dit que Vitinha n'est pas top 5 mondial, c'est pas être méchant avec lui. C'est top 5 mondial, c'est vraiment les cracks et c'est vraiment la crème de la crème. Vitinha est un très bon joueur, mais top 5 mondial pour nous, pas pour
Non,
moi en tout
aujourd'hui,
cas.
non.
C'est ça.
Voilà, au moins c'est dit. En tout cas, je trouve qu'on a quand même pas mal creusé le débat du Classico. En tout cas, merci aux 533 personnes qui étaient en live ce soir avec nous. N'hésitez surtout pas à mettre un maximum de likes pour la chaîne, pour le développement et le référencement, et à vous abonner si vous êtes nouveau. Si on peut atteindre les 13 000 abonnés le soir où on bat Marseille, qui représente le 13 dans les Bouches-du-Rhône, je trouve que ce serait un beau signal en tout cas, vu que vous êtes 30 000 à nous regarder et même pas 13 000 à être abonnés. Je trouverais ça sympa qu'on convertisse la barre des 13 000 le soir du Classico et on bat Marseille au Vélodrome. En tout cas, merci à Milan, merci à Soura et merci à Kylian d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toutes les personnes présentes dans le chat. N'oubliez surtout pas de mettre un petit like avant de partir et de vous abonner si vous êtes nouveau. Merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
Ciao les gars.